L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Antécédents judiciaires, vous avez déjà été condamné.
Vous parlez de médias,
vous avez convoqué. Vous avez compris, il fonctionne bien.
Entre les parents de ces
policiers-là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Bonjour, vous écoutez Tapage, une émission sur les violences judiciaires, qui passe tous les deuxièmes jeudis du mois sur Canal Sud 92.2 à Toulouse. C'est la deuxième émission qu'on fait sur le droit d'asile. Dans la première, on a surtout parlé de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA qui accorde, ou non, le statut de réfugié. Vous pouvez réécouter cette émission sur lacelette.org, ou sur Spotify, ou sur le site de Canal Sud. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. La CNDA, c'est un peu un genre de cour d'appel pour les gens à qui l'OFPRA a refusé le statut de réfugié. Jusque-là, la CNDA se tenait exclusivement à Montreuil, mais depuis l'automne, elle a ouvert des chambres à Toulouse, Nancy, Lyon et Bordeaux. Et ça a été l'occasion pour nous de nous rendre dans une de ces audiences. On a pu observer la pratique du droit d'asile en France. Pour commencer cette émission, on va d'abord écouter un extrait tiré d'un documentaire qui s'appelle « L'audience dans les coulisses de la justice d'asile ». Un documentaire passé sur la chaîne parlementaire.
C'est la difficulté du métier de juge d'asile, d'essayer d'approcher la vérité, de protéger ceux qui doivent l'être, de ne pas protéger ceux qui ne doivent pas l'être, avec les moyens que nous avons.
Dans sa demande d'asile, madame soutient qu'elle craint d'être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en RDC. En septembre 2022, elle a révélé son homosexualité à sa sœur, laquelle l'a dénoncée à l'ensemble de sa famille. Elle a ensuite été séquestrée par sa famille, laquelle l'a soumise à des séances de délivrance.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Moi, j'ai été étonnée par le récit de votre première relation à l'âge de 9 ans avec Myriam. Donc je m'étonne de l'aspect très factuel de votre récit devant l'office. À 9 ans, madame, on n'a pas une idée de ce genre de choses. Donc je m'explique pas ce que vous avez pu ressentir. Les sentiments que vous avez pu avoir à ce moment-là. Ce ne sont pas des personnes qui sont accusées, ce sont des personnes qui viennent faire reconnaître un droit d'asile. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir la vision de ce qui se passe devant la Cour nationale du droit d'asile comme une juridiction pénale. On est devant une juridiction administrative où les personnes viennent faire valoir leurs droits. Donc, elles viennent faire reconnaître leur droit à une protection.
Vous avez donné combien pour ce document ?
Je l'avais donné 700 dollars.
Mais à l'OFPRA, vous parlez de 1 000 dollars.
1 000 dollars, c'est... Non, l'OFPRA, vous pensez qu'il y a 1 000 dollars.
Et notre travail va consister à peut-être pointer les incohérences, se faire préciser des points obscurs après l'entretien, des choses qu'on n'a pas bien compris. Où était la personne à tel moment, qu'est-ce qu'elle a fait, pour se faire une opinion par rapport à la fois à la cohérence du récit en lui-même, ce qu'on sait sur les sociétés. Une société peut être plus ou moins tolérante vis-à-vis de l'homosexualité, vis-à-vis des femmes.
On ne peut pas être impassible, c'est pas possible. Donc, en tout cas, moi, ma manière de me préserver, c'est qu'il faut quand même arriver à se dire que nous sommes des juges, que nous sommes là, non pas pour juger d'une personne, mais d'une situation, et de vérifier que cette situation relève du droit d'asile. Et que la personne peut être très émue et très affectée par des faits qui se sont déroulés après avoir quitté son pays d'origine, notamment par, je pense à toutes ces jeunes femmes nigérianes qui sont enrôlés dans des réseaux de prostitution et qui passent plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années en Libye, où elles subissent les pires sévices sexuels qui soient. Donc il faut savoir faire la part des choses sans renier et sans nier la douleur et la souffrance de la personne et de son ressenti. Mais il faut savoir aussi ne pas en tenir compte au moment de la décision, puisque au moment de la décision, ce que nous devons examiner, c'est les craintes par rapport à son pays d'origine en cas de retour et les faits qu'elle a vécu ou qu'il a vécu dans son pays d'origine, et non pas au niveau de son parcours d'exil, qui sont souvent de toute façon dramatiques.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour, bonjour maître.
Madame la rapporteure, nous écoutons votre rapport.
Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur Ali, se déclarant de nationalité tunisienne, est né le 20 avril 2000 à Bizerte, en Tunisie. En 2016, il a pris conscience qu'il voulait renoncer à sa confession musulmane. Au mois de mai 2018, après avoir atteint l'âge de 18 ans, il a fait part à sa famille de son choix. Il a été menacé de mort par son père, qui lui a également infligé de mauvais traitements. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 7 novembre 2020 et a rejoint la France le 7 novembre 2021 après avoir résidé un an en Italie. Sa demande a été rejetée par l'Office au motif que ses déclarations relatives à la prise de conscience de son apostasie sont apparues sommaires et peu personnalisées, à l'instar des persécutions alléguées de la part de son père. C'est dans cet état que se présente cette affaire devant la Cour.
Merci Madame la rapporteure.
Bonjour monsieur.
Monsieur, quelles sont vos craintes en cas de retour en Tunisie ?
شنو هما المخاوف ديالك في حاله ما رجعت لتونس انت خايف من واش
خايف من العذاب
j'ai peur de souffrir j'ai peur de mourir
d'accord vos parents fréquentaient la mosquée à Bizerte
في في البلاد ملي كنت الوالدين ديالك كانوا يروحوا للجامع
امي تصلي في الدار وبابا يمشي الساعه
ma mère faisait la prière à la maison oui mon père y allait avant mon départ ici il y allait les 5 fois par jour.
Quand vous avez pris la décision d'annoncer à votre famille donc votre volonté de vous distancier de cette religion musulmane, est-ce que vous vous remémorez le jour où vous avez annoncé ça à vos parents ?
يعني قلت لك هي مش قضيه دات يعني قلت لك انا حبيت
نو
oui je me rappelle de tout de toute façon ça je ne peux pas oublier ça ça peut pas sortir de ma tête.
D'accord. Qui alors était présent ?
شكون كان حاضر في ذاك الوقت ؟
العائله الكل
toute la famille.
C'est-à-dire
ma mère, mes soeurs, mon frère aîné et mon père.
Donc, quels sont les mots que vous avez utilisés ?
Je leur ai dit que j'avais décidé de ne plus suivre la religion, que je ne voulais que j'avais décidé de ne plus faire la prière ni observer le jeûne du mois de Ramadan. Eh bien, en fait, en parlant, en faisant donc ma déclaration, je me concentrais spécifiquement sur mon père parce que je redoutais, j'avais des attentes par rapport à sa réaction. Et donc, quand j'ai fini de parler, il a levé la tête et il m'a dit « Mais quoi ? Comment ça ? Moi, je n'ai pas ce genre d'enfant. » Je n'ai pas d'enfants qui font ça. Et donc, il a saisi l'assiette qu'il avait devant lui, qui était remplie de nourriture, et il l'a lancée sur moi.
D'accord. Et l'assiette, elle vous a blessé ?
Non, pas vraiment. Je l'ai eu sur le côté de l'épaule, on va dire. Oui.
D'accord. Ils ne l'ont pas du tout accepté. Et donc, l'incohérence, c'était le récit de l'altercation avec son père au moment où il lui annonce qu'il renonce à sa religion. Et là, le récit qu'il en a fait à l'audience n'était pas le même que celui qu'il a fait à l'OFPRA. Or, quand ce sont des événements traumatisants et qui marque la rupture avec son pays d'origine, il me semble que le son se souvient quand même à peu près de qui était présent, qui n'était pas présent et où ça s'est passé. C'est pas sur une imprécision que le dossier se détermine. Il faut qu'il y en ait plusieurs qui aillent dans le même sens, c'est-à-dire soit plusieurs imprécisions, soit plusieurs précisions sur un même sujet. Parce qu'une fois qu'on a fait ce... et qu'on sait à peu près que rien ne tient, on va pas non plus... on n'est pas là pour le... Enfin, c'est pas humilier, mais en tout cas, on n'est pas là non plus pour le mettre en défaut.
Bonjour, Madame la Présidente.
Bonjour, Madame Lane.
Je viens vous voir concernant le dossier égyptien sur lequel on avait discuté.
Oui.
Éventuellement, est-ce qu'on pourrait échanger quelques minutes pour envisager une mesure d'instruction ?
D'accord, ouais.
Ça concernait du coup le requérant égyptien qui faisait valoir des craintes en raison de ses opinions politiques. Il avait participé à compter de 2013 à plusieurs manifestations suite à la prise de pouvoir du général Al-Sissi. Et c'est ce qui lui avait valu d'être suspecté d'appartenir à la confrérie des frères musulmans. Sur ce point, la note blanche, elle fait mention d'aucune appartenance à une mouvance...
D'aucun élément, non. Aucun rapprochement avec...
Non, aucune mouvance terroriste, d'accord, ou islamiste. Donc, lui, il fait valoir qu'il a été...
Il a été condamné en Égypte ?
Non, aucune condamnation pour le moment. Il considère qu'il a fait l'objet de surveillance. Il est arrivé en France un peu plus tard, où il a poursuivi ses activités militantes. Il a participé à de nombreuses manifestations, notamment devant l'ambassade égyptienne à Paris. Et c'est ce qui lui a valu justement d'être poursuivi pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Mais il n'a pas encore été condamné, puisqu'il avait été arrêté puis relâché.
Le requérant, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ces faits qui se sont déroulés devant l'ambassade ?
Alors lui, il reconnaît avoir été arrêté, mais par contre il conteste l'outrage et la rébellion.
D'accord.
Donc c'est pour ça que je voulais voir avec vous si vous considériez qu'il était nécessaire de faire une mesure d'instruction, parce que c'est vrai que du coup le casier judiciaire qui a été produit à l'OFPRA est assez ancien et il remonte...
Il remonte à quand ?
Un an.
Donc ça serait bien effectivement de faire une demande d'actualisation pour voir s'il a été éventuellement condamné en France. Nous ne sommes que des juges, nous ne sommes pas des policiers, nous n'avons pas de pouvoir d'aller rechercher si telle ou telle personne a un casier judiciaire ou n'en a pas. En revanche, effectivement, une fois que ces éléments sont au dossier, il nous appartient d'aller nous assurer que cette personne ne présente pas un risque pour la sécurité de l'État français ou un risque pour la société française. Et dans ces cas-là, l'asile ne l'aurait pas accordé.
Ou l'aurait même retiré pour certains qui l'auraient obtenu précédemment.
Est-ce qu'il n'est pas plus simple de protéger ? Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir des juges ? On met un distributeur sur le trottoir, et c'est bon. Un juge, ça fait du droit. Un juge, ça raisonne. Un juge, ça fonde cette décision sur des éléments précis. Donc est-ce qu'on a assez pour protéger ou pas ? C'est la question qu'on se pose à chaque fois.
Pour se laver les oreilles de cette musique de fond, entre autres, on va écouter Émigré, je pense bien que ça se prononce pas comme ça d'ailleurs, de Anti-Flag, qui vient de l'album For Blood and Empire, qui date de 2006. First they came for the communists, and I did not speak out. Then they came for the socialists, and I did not speak out. Next they came for the trade unionists, and I did not speak out. And then they came for me! This is a ton of me!
Vous êtes toujours sur Tapage, Canal Sud 92.2, dans cette deuxième émission consacrée au parcours du demandeur d'asile. Aujourd'hui, la CNDA, alors on vient d'entendre des paroles de juge qui officiait à Montreuil, et comme on vous le disait, depuis peu, il y a des chambres territorialisées de la Cour nationale du droit d'asile, dont une a ouvert à Toulouse il y a quelques semaines. Et Clément et Marie sont allés observer quelques-unes de ces audiences. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre, parce que il y a des paroles de juge, mais il y a aussi des instants d'audience hein, qui ont été pris dans ce documentaire, est-ce que ça fait écho avec des choses que vous avez pu observer ? Comment ça se passe ? On arrive dans la salle.
Ben là, les paroles de juge, effectivement, moi j'ai trouvé que c'était plutôt très ressemblant avec les choses auxquelles nous on a assisté, à ceci près que... EL, là, on a l'air très content d'eux, et nous, on n'a pas tout à fait trouvé que ça se passait bien. Et comment ça se passe concrètement? On rentre dans la salle, c'est une petite salle, on arrive face à, comme d'habitude, une petite estrade, et il y a trois personnes dessus, il y a trois juges, il n'y a pas de procureur, donc ça, c'était une nouveauté par rapport à la comparution immédiate. En revanche, là, il y avait une rapporteuse, une dame qui faisait le rapport initial.
Elle résume, en fait... La situation et la demande de la personne, et surtout, puisqu'on est devant la CNDA, les raisons du refus par l'OFPRA de son statut de réfugié.
Ce qui est bizarre à observer, c'est que dès ce moment-là, il y a toute une partie de ce résumé qui n'est pas forcément traduit à la personne qui fait le recours devant la CNDA. Et puis à un moment, la rapporteuse est rentrée dans le bien fondé de la requête, c'est-à-dire les bons points en quelque sorte du dossier, les raisons pour lesquelles le dossier était là devant la CNDA plutôt que d'avoir été refusé par ordonnance, c'est-à-dire refusé avant même l'audience. Elle résume donc les bons points, genre par exemple la demande est crédible, elle est plausible, l'appartenance à telle minorité réprimée est avérée, mais elle résume aussi les mauvais points. C'est-à-dire, sur tel et tel fait, la personne ne s'est pas suffisamment expliquée, ses déclarations ont semblé peu étayées ou peu circonstanciées.
Ouais, c'est ça, on sent bien que dès le début, l'accent est mis et va être mis dans les questions qui sont posées sur la fameuse cohérence du discours. C'est ce qui va vraiment être le fil rouge de cette audience. C'est le nerf de la guerre, de savoir si effectivement le récit est crédible et s'il n'y a pas d'incohérence. De la part de la personne qui demande.
Donc on a ce résumé là qu'on a entendu. Moi, ce qui m'a marqué dans ce qu'on vient d'entendre aussi, c'est que c'est annonné de manière un peu mécanique, administrative, froide. On a ce résumé là et ensuite comment ça se passe? La parole est au requérant ou
À ce moment-là, le président commence à poser des questions à la personne qui fait la requête. Qu'est-ce que vous craignez si vous retournez dans votre pays? Quel est l'élément déclencheur de votre départ? Combien de temps après l'élément déclencheur êtes-vous parti? Ce qu'on a beaucoup entendu aussi, c'est combien a coûté votre départ? Comment avez-vous trouvé un passeur? Enfin, il y a toute une série de questions qui sont posées, avec toujours peut-être le souci d'essayer de faire que la personne se contredise, d'essayer de voir les incohérences du récit. Déjà, les incohérences avec le récit qui a été fait à l'OFPRA dans le cours de l'entretien, mais aussi, là, devant la CNDA, les incohérences qui pourraient surgir. Donc il y a constamment des questions pièges, des questions surprises, des questions incroyablement précise sur des points, par exemple, de tel contrat de travail, de tel statut professionnel, de tel type d'activité. Il peut y avoir tout d'un coup une batterie de questions sur le statut, sur l'activité libérale au Nigeria, tu vois. Chose, par ailleurs, dont on est bien intimement persuadé qu'au moins plusieurs de personnes là qui sont en train de juger ça n'en savent pas plus que nous, quoi.
Avec toujours ce climat de suspicion dans les deux audiences auxquelles on a assisté, on a beaucoup vu des remarques, notamment du président, qui montraient cette tendance à douter forcément de la parole, du récit, voire de la réalité quelque part de ce qu'avait vécu la personne. Sur les deux audiences auxquelles on a assisté, la première a été assez emblématique. C'est un jeune homme qui vient du Nigeria et qui fait une demande en expliquant qu'il a été enrôlé dans une confraternité étudiante qui se trouve être en réalité une organisation criminelle. Et tout l'entretien va consister à déterminer dans quelle mesure il était effectivement membre de cette confraternité et dans quelle mesure l'appartenance à cette confraternité causait un risque pour lui. Et ce qu'on sent au fil du récit et des questions, c'est que le président va tenter de le coincer sur des détails. La question, c'est de savoir comment avez-vous intégré cette confrérie étudiante, comment ça s'est passé. Le jeune homme répond que c'est lors d'un rite initiatique. Et le président va lui demander, c'est quoi exactement ce rite initiatique? Venez me montrer votre pouce. Et donc, il demande effectivement au jeune homme de se lever pour aller lui montrer à la barre son pouce droit, parce que c'est très précis. Et le président commente en regardant le pouce droit de la personne, en disant, dans les rites initiatiques de ce type de confrérie, il y a effectivement une entaille qui est faite sur le pouce droit et la personne doit boire le sang. Or, là, il n'y a pas d'entaille.
Donc... Bravo, Sherlock. Mais comment c'est-il tout ça, ce juge ?
Bah, là, le juge n'arrêtait pas de faire allusion à une espèce de sacro-sainte documentation. On entendait un peu le D majuscule. Et qu'est-ce que c'est que la documentation ? Au sens large, c'est effectivement toutes les recherches qu'il peut faire sur Internet. Mais là, la manière dont il le mobilisait... vraisemblablement il faisait allusion à des notes qui sont fabriquées par le CEREDOC, le centre de recherche et de documentation de la CNDA. Le CEREDOC, en fait, il fabrique sur chaque pays et plein de situations différentes, il fabrique des petites notes informatives à destination des magistrats pour qu'ils puissent avoir des informations circonstanciées sur chaque pays. Donc on lit sur le site de la CNDA que cette documentation, elle est incroyablement bien faite et mise à jour quotidiennement. C'est par ailleurs extrêmement peu plausible. On a du mal à imaginer comment une documentation aussi massive qui concerne autant de situations différentes dans autant d'endroits, autant de lieux, puisse être mise à jour quotidiennement. Puis ça pose des tas de questions. Cette documentation qui est tellement importante pour prendre des décisions, pour l'avenir, pour l'obtention du statut de réfugié, ben, qui la fabrique? Tous les combien elle est mise à jour? Il y a quoi dedans exactement? Puis c'est impossible de savoir parce qu'elle n'est pas publique. C'est-à-dire qu'elle est vraiment réservée aux magistrats de la CNDA, ni nous, ni les avocats et avocates, on y a accès, donc on sait juste tout simplement pas ce qu'il y a dedans. Donc cette histoire de pouce est par ailleurs pas du tout plausible. Enfin, comment croire de manière certaine qu'il y a des pratiques qui sont tellement monolithiques et toujours les mêmes, et exactement que tel rituel d'initiation se passe exactement de la même manière depuis Dieu sait combien de temps, sans avoir aucune information sur la provenance de cette information, sur qui a fabriqué ça, comment est-ce qu'on sait ce genre de choses. Mais visiblement, là, pour le juge, ça posait pas question. Cette histoire de documentation revenait tout le temps. Et tout ce qui était différent de la documentation, il le faisait remarquer de manière très insistante. Ça n'est pas ce que dit la documentation.
Donc, on a un requérant, là, qui a une entaille au mauvais endroit, si je comprends bien, en contradiction avec la documentation avec un D majuscule. Et après, vous évoquez aussi d'autres thèmes qui peuvent alimenter la suspicion du juge sur quel élément a été déclencheur dans la fuite, combien de temps après êtes-vous parti.
Effectivement, sur cette situation très particulière, l'élément déclencheur donc qui est invoqué par le requérant, c'est une fameuse rixe donc qui a fait plusieurs morts et qu'il décrit comme étant la pire qu'il ait jamais vue en tant que membre de cette confrérie. Et c'est vraiment le moment pour lui qui est le point de bascule. Je peux plus rester là, il faut que je m'en aille. Je crains par ailleurs pour ma vie parce qu'il explique qu'il a peur de représailles de la part de membres de l'autre confrérie. Et donc il explique qu'il part se réfugier chez un ami, et ça dure quelques mois, ça dure 2 mois, Et il y a toute une série de questions sur mais c'était où, mais qu'avez-vous fait? Le requérant explique qu'il est resté, qu'il n'est pas sorti de la maison, que c'était une grande maison. En fait, on le voit, il est acculé de questions qui sont très précises sur mais comment ça se fait que tu n'es pas parti plus tôt? Pourquoi es-tu resté 2 mois dans le pays à cet endroit-là et tu es parti finalement 2 mois et demi après?
Si je comprends bien, la suspicion, c'est si ce que vous décrivez était aussi insupportable, comment ça se fait que vous soyez parti que 2 mois plus tard? C'est.
Et il y avait d'autres éléments de suspicion. Par exemple, cette fameuse Rix, en fait, il n'était pas présent en personne. Donc le président lui dit, mais en fait, pourquoi est-ce que ça, c'est l'élément déclencheur alors que vous n'étiez même pas là? Et puis d'ailleurs, comment est-ce que vous en avez entendu parler? Comment est-ce que l'information vous est parvenue? Si vous n'étiez pas présent en personne, comment pouvez-vous être aussi sûr que vous l'êtes, que votre vie est maintenant en danger et que le groupe adverse vous recherche? Donc il y avait eu toutes ces choses-là. Derrière, il y avait aussi, vous dites que c'est ça l'élément déclencheur, mais en fait, moi j'ai regardé sur Internet, 2 jours avant, il y a une autre Rix où il y a eu encore plus de morts. Donc en fait, voilà cet élément déclencheur, là, voilà, on voit pas bien pourquoi c'est ça la chose qui vous aurait décidé à quitter le pays. Et derrière l'ensemble de ces questions, ce qu'on imagine que les juges recherchent, en fait, c'est le faux réfugié, à savoir la personne qui migre pour des raisons économiques, qui est, je pense, l'ennemi de la CNDA et de l'OFPRA, quoi.
Ouais, on sent bien, là, effectivement, qu'il faut à la fois avoir un discours crédible sur son récit, sur ce qu'on a vécu, mais pas quelque chose qui soit non plus trop... piocher justement dans des récits un peu standards ou qu'on aurait lu des choses ou entendu d'autres récits qui seraient quelque chose de pas vécu personnellement. Et on sent, tout ça nous donne l'impression quand on y assiste que la personne est vraiment cernée de toutes parts et qu'il y a une intransigeance totale en fait sur ce qu'il a raconté. On a même le sentiment que là, quand il raconte des choses qu'il ressent sur la peur, sur la crainte, le simple fait qu'il n'ait pas été présent à la Rix, non, c'est pas possible. Ça ne justifie pas une demande auprès de nous. Donc c'est assez déstabilisant comme
situation. À vous entendre aussi, on a l'impression qu'il y a une espèce d'injonction paradoxale de la part de la Cour. Pas un récit trop standardisé, parce que les récits s'achètent, et il faut bien veiller à ce que la personne ait pas acheté un récit préfabriqué, etc. Et donc la situation soit plus complexe et qu'elle démontre en quoi elle personnellement elle risque des représailles. Mais à l'inverse, les questions de la Cour apparaissent très standardisées dans ses attentes, finalement.
Rien que cette histoire d'éléments déclencheurs, je pense que quelqu'un qui arrive là devant la CNDA comme devant l'OFPRA n'a pas le choix que de s'en trouver un, quelle que soit la réalité de son récit. On va lui demander s'il n'est pas bon, pas crédible, mal raconté, ça va vraiment poser des difficultés dans son parcours. Donc en fait, je pense que quel que soit ce qui t'arrive, va falloir s'en trouver un élément déclencheur. Et il va falloir qu'il soit bien. Et du coup, on a bien vu là l'avocat de ce monsieur essayer de retourner à l'avantage de son client le fait que le récit soit pas tout à fait standard. Donc il a dit explicitement, voilà, le fait même qu'ils disent qu'il n'était pas présent lors de son propre élément déclencheur, en fait, en vérité, c'est un élément de crédibilité, parce qu'on voit trop souvent ces récits où les requérants exagèrent les risques encourus. Et là, regardez, lui, il n'exagère pas, ça rend la chose très crédible, il explique qu'il n'était pas là parce qu'il travaillait, voilà, il n'en rajoute pas, c'est dire si son récit est crédible.
Et le fait qu'il y ait des zones floues, ce qui peut arriver dans des récits, n'est pas pris par la Cour comme un élément de compréhension, quelque part, par rapport à des situations terribles qui sont traversées, c'est pris totalement à l'inverse. C'est-à-dire qu'il faudrait que les choses soient absolument précises, expliqué de manière presque clinique et froide. Or, on voit bien que dans les récits qu'on entend, c'est des parcours de vie qui sont très difficiles, avec des voyages qui sont terrible, même ce que les personnes ont vécu avant.
Puis là, la CNDA a une grille d'analyse, et quelque part on fait le reproche à ses requérants d'essayer de rentrer dans cette grille. Or, effectivement, qu'est-ce qui provoque le départ d'un pays? On imagine bien que ce sont aussi des causes multiples, mais il va falloir fabriquer ou alors exagérer l'importance d'un événement en particulier qui, comme dans un film hollywoodien, justifierait le départ de la personne. Alors il y a la question de qu'est-ce qui justifie le départ de la personne, et là je fais allusion peut-être à la deuxième affaire que vous avez vue, et la question aussi des craintes de persécution dans le cadre d'un éventuel retour. Il me semble que il y avait notamment cette dimension-là dans une deuxième affaire que vous avez vue.
Ce climat de suspicion, il transparaissait tout l'après-midi qu'on a passé à la CNDA, puisque effectivement, on l'a évoqué pour le premier requérant. Et la deuxième audience qui concernait un jeune homme qui vient d'Afghanistan partait sur les mêmes bases. C'est un jeune homme qui explique craindre pour sa vie, craindre d'être persécuté par les talibans en raison de ses opinions politiques. Ça, c'est ce que rappelle donc la rapporteuse lorsqu'elle résume la situation et les raisons pour lesquelles l'office a refusé sa demande de protection. Alors là, c'est une affaire qui est très particulière parce que ce jeune homme fait partie d'une famille dans laquelle il y a 5 personnes et toutes les personnes, tous les membres de cette famille ont obtenu la protection par l'OFPRA, sauf lui. Donc là, on est dans une situation assez spéciale, que le président d'ailleurs ne manquera pas de relever à plusieurs reprises, avec des expressions du style c'est extraordinaire, c'est incroyable, on ne comprend vraiment pas pourquoi il y a une telle différence de traitement, alors que le récit de ces 5 personnes est le même, vu qu'ils ont suivi le même parcours. On reçoit effectivement un jeune homme qui explique avoir été enrôlé dans une milice opposée aux talibans, et que dans le cadre de cette intégration dans la milice, il était chargé de relever l'impôt dans plusieurs villages, dans un district d'Afghanistan, auprès d'une population de 25 à 30 000 habitants. Et là-dessus, sur la question du climat de suspicion, c'est intéressant parce que le président, à plusieurs reprises, lui demande s'il était armé, et finalement, on comprend que la question, c'est de savoir, mais comment était-il réellement impliqué dans cette milice? Et le président finit par lui dire, bon, en fait, vous n'étiez pas en première ligne, vous étiez en troisième ligne. Donc, on sent derrière le sentiment, parce que c'est vraiment une question de sentiment, de se dire, est-ce que réellement tu étais si impliqué que tu crains pour ta vie et qu'on peut t'accorder la protection.
Ouais, si je comprends bien, son implication dans cette milice, son appartenance plutôt à cette milice, elle n'est pas contestée. Il n'est pas contesté par ailleurs que cette milice fait l'objet de représailles de la part des talibans. Ça, c'est évacué. Mais concrètement, au-delà de votre simple appartenance à cette milice, qu'est-ce qui vous expose finalement? Qu'est-ce que vous avez fait qui vous expose?
Exactement, la question en fait qui est posée à plusieurs reprises dans les deux affaires, c'est ok, il y a cette situation tendue sur le terrain, cette situation géopolitique, ok, vous étiez dans tel groupe, organisation, très bien, vous nous l'expliquez, mais vous personnellement, en quoi ça vous affecte? Donc en quoi vous étiez impliqué personnellement, et ensuite, quelles menaces personnelles vous avez reçues? Il y a des menaces qui sont portées sur des groupes de cette milice, peut-être sur votre famille, mais vous, personnellement, est-ce que vous en avez reçu?
À l'appui de ses déclarations, pour expliquer qu'il est menacé, en fait, il produit dans le dossier une lettre des talibans qu'il a reçue, je ne sais plus, en 2018 ou en 2019. Et là, le président dit explicitement, voilà, il y a cette lettre, elle peut être vraie, elle peut être fausse, on ne peut jamais savoir. Donc toujours ce climat comme ça de suspicion, même quand t'amènes des éléments de preuves tangibles, on suspecte toujours que ces preuves puissent être intégralement fabriquées. Là, en revanche, et on sent tout de suite par ailleurs, par comparaison avec l'audience du jeune homme nigérian, en revanche, là, on sent tout de suite que le juge accroche au récit. Là, par exemple, ben, l'élément déclencheur, voilà, il y a cette lettre des talibans qui arrive quelques années auparavant. Pourquoi n'êtes-vous pas parti à ce moment-là? La réponse, elle est très claire, Elle est immédiatement acceptée par les juges. Oui, j'ai reçu des menaces des talibans, à la fois téléphoniques et à la fois par lettre, mais à l'époque, le district était tenu par la milice, donc de toute façon, les talibans ne pouvaient pas rentrer dans le camp, parce qu'il était... enrôlé, comme on disait, de force dans cette milice, donc il vivait là, dans un camp, donc il ne pouvait pas s'en aller. Les talibans ne pouvant pas rentrer dans le camp, j'ai supposé que de toute façon, ces menaces ne pouvaient pas être mises à exécution. Je suis partie, du coup, en 2021, quand les talibans ont pris le pouvoir. Ah, très bien, mais vous n'êtes pas partie immédiatement à partir après la prise de pouvoir. Vous êtes partie 2 mois après. Oui, parce que pendant 2 mois, on a espéré que l'ordre revienne. Comme ça n'a pas été le cas, on a pris la décision de partir. Il y a un ami qui nous a trouvé un logement, puis il nous a trouvé un passeur, et on est parti rapidement après. Donc le récit convainc les juges. Il a réponse aux questions rituelles des juges, éléments déclencheurs, temps qui passe entre l'élément déclencheur et le départ réel, les différentes raisons, et la réponse à toutes ces choses-là. Et on voit bien que ça emporte la conviction des juges qui, très rapidement, sont moins suspicieux avec ce jeune homme-là qu'avec celui d'avant.
Et c'est assez caricatural, d'ailleurs, on le sent très très vite, c'est-à-dire que très vite au cours de l'après-midi, et même après, alors on n'a pas le résultat de l'audience, le délibéré est rendu 3 semaines plus tard, mais très franchement, assez vite, on sent que dans un cas, le cas du Nigérian, ça se passe pas forcément très très bien. Et dans le cas... du jeune Afghan, là on sent assez vite que quelque part il y a un sentiment plutôt positif qui se dégage de cet entretien. Et la question du sentiment, elle est très forte d'ailleurs. C'est ce qu'on entendait dans l'extrait qu'on a entendu sur la fameuse phrase de la juge. Il me semble que nous, quand on a assisté aux audiences, on était beaucoup sur ce il me semble. En termes de recherche de la preuve, bah là, on est sur plutôt quelque chose de l'ordre du ressenti des juges. Et c'est assez fort, ouais.
Et peut-être que son récit avait le bonheur de correspondre avec la documentation. ce qui a l'air d'avoir été un problème dans l'autre dossier. Alors finalement, cette audience sur cette personne, une fois que son récit a été validé, en tout cas sur les raisons de la réalité du risque personnel, l'élément déclencheur, l'audience s'est focalisée sur un autre point.
Ouais. C'est annoncé dès le début par la rapporteuse. En fait, il a deux raisons à l'appui de sa demande de statut. La première raison, c'est la chose dont on vient de parler, à savoir il craint pour sa vie en cas de retour au titre de son appartenance forcée à cette milice, il craint des répressions de la part des talibans. La deuxième raison, c'est ce qui a été appelé l'occidentalisation. Donc ça, évidemment, on ne savait pas ce que c'est, on s'en est rapidement douté malgré tout. Le président prend quand même le soin de dire, bon voilà, l'occidentalisation, attention, ça n'est pas l'intégration dans la société française. Ah. dit-il, c'est le risque que vous encourez de rentrer dans votre pays parce que vous seriez trop occidentalisé, et cette occidentalisation, par exemple des goûts, des vêtements et des pratiques, vous mettrait en danger de mort en cas de retour dans votre pays. Donc le président explique toutes ces choses-là, prend l'air vertueux et dire « Je ne vous poserai pas de questions sur la religion. Vous pouvez, pour ce qui me concerne, prier 5 fois par jour, ça n'est pas mon problème. » Et immédiatement après, demande « Est-ce que vous consommez de l'alcool ?» Voilà. Et là, ça a été le début de 10 minutes, un quart d'heure, sur la question de l'occidentalisation, qui était infiniment raciste.
Alors, tu en es quoi comme question, du coup ?
Alors, on a eu, avec beaucoup d'insistance, cette question de l'alcool. Donc, effectivement, le garçon n'en buvait pas, par chance. En fait, il y a plein d'autres choses qui ont fait qu'il a été pardonné de ne pas boire de l'alcool. Par exemple, était versé à son dossier une photo de lui brandissant un magnum de Bordeaux. Donc, il y a eu pas mal de conversations.
C'est un bon point, ça, j'imagine.
Voilà, il y a eu pas mal de questions sur ses goûts en matière de tourisme. Un des assesseurs a clairement demandé, un peu en matière de blague, mais à voix quand même intelligible, s'il acceptait de visiter des églises. C'est ce qui était quand même un peu fou. Après, il y a eu des questions sur sa compagne. Sa compagne, jeune femme pakistanaise, donc il a été félicité d'être avec elle depuis 9 ou 10 mois. Par ailleurs, on nous a bien précisé que c'était hors mariage. Et là, il y a une série de questions un peu incroyables. Le président lui a demandé « Mais alors, est-ce que votre mère est au courant que vous avez cette relation amoureuse hors mariage? Il dit oui. Et comment l'a-t-elle pris? Il dit, ben, elle l'a pas très bien pris, c'est une femme de la campagne, donc au début, ça l'a un petit peu choqué, mais si, comme c'est comme ça que les choses se passent, aujourd'hui, elle s'est habituée. Et là, le président la contredit. Il dit, ah non, ça n'est pas parce que c'est une femme de la campagne que votre mère a été choquée. C'est parce qu'elle appartient à l'ethnie pachtoune, et le code d'honneur pachtoune, c'est quand même quelque chose. Et après, il y a eu encore une autre question à propos de ce fameux code d'honneur pachtoune. Il dit, voilà, vous sortez avec cette jeune femme pakistanaise, là, depuis quelques mois, vous allez vous marier, vous aurez des enfants. Quand vous aurez une fille, si cette fille a des relations amoureuses hors mariage, comment réagirez-vous? Ce qui est une chose incroyable à demander. Et là, le jeune homme a la réponse qui convient au juge, à savoir, ça ne me posera pas de problème, chacun fait ses choix, ce sont des choses personnelles, je n'ai pas de problème avec ça.
Voilà. Donc, il n'est pas question pour la cour, on l'a bien compris, hein, de parler de religion ou de définir ce que c'était que l'intégration à la société française. Mais ce qu'on comprend quand même, c'est que ça passe par le fait de boire du vin, aller à l'église, se marier et avoir des enfants. Les questions qui sont posées.
Ouais, totalement, c'est exactement ça. Et dans la question, effectivement. Sur le fait de savoir s'il a une fille, si elle se marierait, d'avoir une relation sans être mariée, si ça lui posait problème. Effectivement, la réponse qu'il donne a l'air d'être la bonne. Et le président a une réponse qui est assez folle quand même, puisqu'il dit OK. Et il explique, il raconte une anecdote qu'une fois il a eu à ce type de question. Comme réponse, je cite, « Je la tue ». Et là, on entend quelques rires dans la salle, et le président dit quelque chose de l'ordre de « bon, bah là, vous reviendrez en deuxième semaine, en gros, ça ne passe pas, quoi ». Et c'est vrai que c'était un festival, ce quart d'heure de questions qui partait également sur les choix professionnels du jeune homme qui expliquait en France vouloir devenir interprète. Et alors là, on a assisté à un moment... assez fou, c'est que le président pose des questions, il y a l'interprète qui est là qui traduit, et le président dit non, ne traduisez pas, je lui pose la question en français et il me répond en français. Et voilà, donc c'était on se demandait bien d'ailleurs à quoi ça servait.
Ils sont pas censés évaluer, en théorie, si on écoutait le président lui-même, il était pas là pour intégrer, pour évaluer son niveau d'intégration, encore moins son niveau de maîtrise du français.
C'est ça, là ça faisait vraiment un moment qui était à mi-chemin entre le piège, clairement, parce que je pense que personne n'avait prévu que ça se passe comme ça, et le petit moment de complicité aussi. Oui. Contrairement à la première audience où on était sur un interrogatoire, là on était à mi-chemin entre les deux, et avec quand même en filigrane cette question de savoir sur l'occidentalisation, finalement, si c'était quand même pas un bon petit français en devenir. Alors même que le président avait exposé au tout début qu'il s'agissait pas de savoir s'il était bien intégré à la société française, mais si le risque pour lui était qu'il était trop désintégré à la société talibane. Et en fait, on a plutôt eu le sentiment, nous, de l'inverse.
Ce qui fait très très peur, c'est d'imaginer comment ça se passe pour les autres, parce que là, effectivement, et tant mieux pour ce jeune homme, mais ça, on vérifiera, mais ça donnait l'impression qu'il allait obtenir ce statut de réfugié, parce que les choses se passaient bien. Mais on voyait en creux tout ce qui pouvait se passer pour quelqu'un qui n'aurait pas eu à ce point-là les bonnes réponses. Et d'ailleurs, le président s'en cachait pas. Il a dit, voilà, au moment de tester son niveau de français, il a dit explicitement, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en français à part merci, bonjour, au revoir? Et en voyant que le type, effectivement, s'en sortait, il a réussi à faire une phrase, visiblement il comprenait, il avait un niveau français qui était visiblement correct, il a dit « Ah, ça nous change agréablement d'habitude !» En fait, c'est quand même fou à entendre. Et c'est pareil pour le reste, si par malheur, la personne là qui demande le statut avait dit « Ben voilà, moi je suis pratiquant, ceci, cela, c'est important pour moi, que ma femme porte le voile et tout », je suis bien curieuse de savoir comment ça aurait été accueilli. Hein.
Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on disait tout à l'heure, il cherche à prendre un peu en défaut le récit des requérants, parce qu'il serait trop standardisé, mais dans leur question sur l'occidentalisation, là, on est quand même... Il y a une des magistrates, tout à l'heure, qui dans le reportage qu'on a entendu, qui disait « Nous sommes là pour faire du droit ». on est plutôt au bistrot, enfin, et pas dans n'importe quel bistrot, pareil.
Oui, là, on en est réduit à savoir si effectivement la personne aime l'alcool, aime les jeux vidéo, les films d'horreur. C'est-à-dire que ça fait de nous une personne bien occidentalisée.
Et l'avocate, effectivement, comme dit Clément, s'est engouffrée dans la brèche. C'est pas une brèche, mais et c'est en partie son travail, mais elle l'a fait d'une manière qui était très choquante.
Oui, parce que ça pousse du coup à...
Elle a fait une longue énumération de comportements typiquement occidental et surtout qui montrait qu'il avait, comme elle disait, un rapport apaisé à la religion, ce qui montre bien qu'en fait c'est très central. Il dit Monsieur adore au cinéma, il loue régulièrement des films, il a même été voir la dernière Palme d'Or qui parle quand même d'une stripteaseuse, a-t-elle dit. Bon, sa femme ne porte pas le voile, elle l'a dit explicitement dans sa plaidoirie. Elle fait par ailleurs des études d'infirmière, c'est une femme émancipée, monsieur n'a aucun problème avec les femmes.
Bon, on est vraiment très très loin de l'évaluation des risques de persécution personnelle en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ou autre. On voit comment ce genre d'audience un peu bascule et comment... je sais pas si à ce stade on peut parler d'implicite, mais... Il se joue autre chose dans le cadre de ces audiences-là. On lors de la précédente émission, on se posait la question Lofpra qui était créé pour protéger le réfugié, dans quelle mesure il était là maintenant pour protéger l'ordre public français. Ces audiences, elles sont publiques. À ce propos, d'ailleurs, vous avez été interpellé, me semble-t-il.
Effectivement, le président regardait un petit peu qui y avait dans la salle. Il faut savoir que c'est une salle qui est toute petite. Et donc, on s'est installé. Et là, il y a eu un moment assez étonnant. C'est vrai que quand on assiste à des audiences en comparution immédiate, des audiences correctionnelles classiques, il n'y a pas d'interaction avec le public. Et là, le président, pareil, dans une logique un peu de complicité, parce qu'il nous parlait avec le sourire, il y avait une sorte de bonhomie. Il nous a demandé ce qu'on faisait là, qui on était exactement, et si on était membre d'Amnesty International. Donc on a compris qu'il y avait des personnes dans la salle d'Amnesty International, et donc il a voulu savoir, comme il savait qu'Amnesty International assistait à ces audiences, donc déjà c'est une info pour lui visiblement, il voulait savoir si on en faisait partie, et si on n'en faisait pas partie, bah, d'où on était, qui on était.
Tapage, monsieur le président. Mais effectivement, il y a un projet d'observation, je crois, d'Amnesty, hein, des audiences de la Cour nationale du droit d'asile. Apparemment, à Montreuil, ça se fait peu, le public dans la salle. Et bon, un peu comme pour les comparutions immédiates, ces audiences-là, elles sont publiques, il faut aller voir ce qui s'y passe.
Et là, c'est le tout début, hein, parce que cette chambre territoriale, elle a ouvert à l'automne dernier. Donc à terme, bah, ce sera tous les jours, matin et après-midi. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait tous les jours. Et là où on voit que c'est un peu le début, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie des personnes qui sont là, qui viennent de Paris, qui viennent de Montreuil. Le juge là qu'on avait la dernière fois venait effectivement de Montreuil, il arrêtait pas d'en parler. Vraiment, il en parlait. Moi à Montreuil ceci, moi à Montreuil cela, tout ça. L'interprète pour le jeune homme afghan venait lui aussi de Montreuil. Donc on imagine que petit à petit. Je sais pas, les juges vont venir de Toulouse, ou on sait pas. Voilà, c'est la mise en place de quelque chose qui tourne pas encore à plein régime, mais qui va, à un moment donné, enfin, c'est l'objectif, à un moment donné, que ça tourne tous les jours.
L'ambition, c'est de juger 13 personnes par jour pour la CNDA.
13 par jour, c'est beaucoup. Ça va exiger d'aller très vite. On en a déjà eu un aperçu là, avec cette deuxième affaire avec le jeune Afghan, où le président, aussi vraisemblablement parce que sa décision était déjà prise, on l'a un peu pris comme ça, parce que c'est bon, c'était réglé, il était convaincu. Au début de la plaidoirie de l'avocate, lui a dit « Maître, compactez votre plaidoirie ». Donc voilà, il y aura aussi tous ces processus d'exaspération, d'accélération, qu'accompagne toujours l'accélération des procédures.
Et toujours au détriment, toujours... soit du prévenu, soit du requérant, évidemment.
Phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes, nous ont exploité sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qui haïssent, ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais plus inscrit en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale, pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement c'est tari par escale, entre charter, expulsion, univers carcéral. Être à jamais la bête noire de ces chacals est mon ambition première. Je considère que c'est normal, le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. On ne croit plus à la paix, mais un violent réajustement. Et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos jambes. Pour des générations acquises par nettoyage mental, acquis sous un examen de conscience radical. Si ce sol je foule encore, c'est pour que mes pas y restent imprimés après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain, que la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur l'arbre chancelante et la branche qu'ils ont scié, se tient le rêve jamais brisé d'un à un. Les voir tomber, des racines asséchées de nos précieux oliviers, au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quand à nous s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sursaignent. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Pour une guerre à ciel ouvert.
On vient d'écouter la chanson « Frontière » de La Galle, tirée de son album qui s'appelle comme elle « La Galle », sorti en 2012. Et maintenant, on va, dans cette deuxième moitié d'émission, écouter Julien Brel, avocat spécialiste du droit des étrangers avec qui on a parlé de la CNDA.
Alors, une décision de rejet de l'OFPRA, un recours est fait donc devant la Cour nationale du droit d'asile. Est-ce que pour autant, ça veut dire que le requérant, il va avoir une audience pour s'expliquer ?
Non, pas nécessairement. Enfin, on devrait l'espérer, mais c'est pas le cas, puisque la Cour nationale du droit d'asile, et c'est sa manière de traiter les dossiers, de traiter le contentieux et de gérer les stocks, c'est politique, hein, enfin clairement, rejette un tiers des recours par ordonnance. Ordonnance, ça veut dire sans audience. Donc sans audience, c'est pareil. Pendant les 10 premières années d'exercice, un rejet par ordonnance sans audience, c'était parce que votre recours était hors délai. Ou parce que vous aviez dit « je fais un recours parce que j'ai des problèmes économiques dans mon pays, donc je veux rester en France ». Ce qui relevait pas de la Convention de Genève, hein, c'est tout à fait respectable, mais pour le coup, ça relève pas de la Convention de Genève. Donc là, on était dans quelque chose qui était manifestement irrecevable. Depuis une petite dizaine d'années, mais là surtout depuis on va dire 4-5 ans, les ordonnances prennent des proportions absolument délirantes dans le traitement des dossiers par la Cour nationale du droit d'asile, puisque on n'est plus sur une irrecevabilité manifeste, on est sur l'examen de recours sur le fond, où en fait un juge tout seul dans son bureau, en vrai c'est pas un juge, hein, c'est un rapporteur, que celui qui parle en premier, là, que vous avez dû voir lors de l'audience qui présente le dossier, c'est le rapporteur qui va proposer au président. Proposer au président, c'est comme quand vous arriviez devant quelqu'un que vous voulez lui faire signer quelque chose, vous savez, vous lui amenez peut-être un tas, vous ne montrez pas ce qu'il faut signer, il est censé lire, tout ça. On sait que ça se passe pas forcément comme ça. Et donc, on va avoir des rejets par ordonnance, puisque ce juge rapporteur considérera qu'il n'y a pas d'éléments sérieux de contestation de la décision de l'OFPRA.
Là non plus, pas de recours.
Pas de recours, juste la voie du pourvoi devant le Conseil d'État. ce qui n'est pas un recours en tant que tel. C'est, pour moi, c'est une voie de cassation avec des motifs particuliers. Et donc, on s'est rendu compte que cette procédure de rejet par ordonnance, elle a pris une ampleur considérable. Au début, et c'était déjà contestable, hein, c'était déjà lamentable, on avait des rejets par ordonnance sur des dossiers de demande de réexamen. Bon, on pouvait encore imaginer, en se mettant à leur place, hein, ce qui est assez détestable, mais se dire qu'il y en a un demandeur d'asile qui a déjà fait une demande, qui a été rejeté une première fois par la Cour nationale du droit d'asile, qui refait une nouvelle demande. Bon, s'il n'y a pas d'élément nouveau, bon, laissons-nous embarquer vers ce triste sort. Ensuite, sont arrivées les personnes originaires d'un pays sûr. Un pays sûr, c'est un pays qui appartient à une liste établie par le conseil d'administration de l'OFPRA, pour lesquels l'OFPRA considère que globalement, tout va bien. Donc c'est un pays sûr. Pas de problème démocratique, pas de problème de violence particulière contre les opposants. Voilà. Donc par principe, quand vous êtes originaire de ce type de pays, pays sûr, dit sûr par l'OFPRA, vous partez avec un gros sac de cailloux accroché au pied, quoi. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la protection, mais en revanche, vous aurez encore plus de mal que les autres. Donc c'est les personnes originaires de pays sûrs, donc Arménie, Albanie, Géorgie, qui se sont retrouvées avec des ordonnances. Donc là aussi, on est toujours dans la même... comme c'est des pays d'origine sûrs, on se dit, bon, d'accord, ok, on comprend un peu la logique, même si on la partage pas du tout. Et là, depuis 4-5 ans, on est sur des sur un traitement quasi discriminatoire. Puisque quand vous êtes originaire d'un pays en particulier, on va prendre l'exemple de la Guinée ou du Bangladesh, voilà, vous avez un risque très 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 conséquent d'être rejeté par ordonnance. Déjà rien que à travers votre nationalité. Votre nationalité bangladaise, ouais, enfin la manière de juger c'est on sait comment ça se passe, les Bangladais, ils ont plein de faux papiers, et puis les Guinéennes, elles nous racontent toute la même histoire de ce qu'elles ont été mariées de force et tout, donc ça va, on va pas nous la faire à l'envers, nous on est déjà intelligents, on est magistrats, on va pas non plus passer une audience à examiner tout ça.
C'est-à-dire qu'on passe du pays sûr au requérant peu sûr.
Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, tiens, je le reprendrai si t'es d'accord. Et non, mais c'est catastrophique, hein. Enfin, à la CNDA, on avait mené une grève très longue de plusieurs mois, une grève perlée là au niveau des avocats pour justement contester le traitement des dossiers par la voie de l'ordonnance, parce que il y avait des situations absolument catastrophiques. Ils ont rejeté par ordonnance des homosexuels sénégalais, alors même que on nous dit que c'est l'oralité qui prime, notamment pour convaincre, hein. Comment vous voulez convaincre à l'écrit que vous êtes homosexuel?
C'est bizarre mélange, cette histoire d'oralité, parce que à la fois, ça semblerait dire qu'on fait confiance à la personne et qu'on va croire ses propos, et à la fois, nous, ce qu'on a vu de l'audience de ce matin, c'est qu'on est dans la pure méfiance. On a vu des magistrats qui essayaient, quand même très visiblement, de piéger la personne qu'ils avaient en face d'eux, de faire apparaître des contradictions, de lui faire dire que finalement, elle ne savait pas exactement ce qu'elle disait. Et d'apporter les preuves de ce qu'elle disait. Comment apporter les preuves de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas prouvables.
Alors, le caractère déclaratif de la demande d'asile, ça veut pas dire qu'on fait par principe confiance, hein, au demandeur d'asile. C'est qu'en revanche, on n'est pas censé exiger de lui qu'il apporte la preuve de quoi que ce soit. Après, le mantra de la demande d'asile, que ce soit à l'OFPRA ou à la CNDA, c'est la suspicion. C'est la suspicion.
C'est le mantra de la justice en général.
C'est pas faux. C'est tout à fait juste. Mais c'est vraiment la suspicion. C'est la suspicion. À partir du moment où il y a une histoire qui marche, il se la refile. Donc on a ouvert une porte qu'on va refermer en suivant. Ils racontent tous la même chose. Ils se font passer le mot. Depuis Dhaka, ils savent déjà ce qu'il va falloir dire pour obtenir. Alors, tout ça est une succession de suspicions généralisées à l'encontre du demandeur d'asile qui, par principe, raconte des
erreurs. C'est vrai qu'il faut à la fois avoir une histoire plausible et en même temps qu'elle ne soit pas trop similaire à celle, enfin, c'est exiger des choses compliquées des gens, quand même.
Ou exiger d'eux qu'ils la racontent mieux que le précédent. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait, détestable, en fait. Parce que, moi, j'ai pu accompagner des demandeurs d'asile qui, juste étaient, pas adaptés à la présentation orale d'une situation ou d'arguments, et qui, effectivement, s'exprimaient de manière parfaitement pas adaptée, qui n'avaient jamais les bons arguments au bon moment. Mais il n'empêche que le dossier devait amener à une protection. Au-delà des propos de l'intéressé, c'est d'autant qu'on parle de personnes qui sont susceptibles d'avoir subi des persécutions, avoir des syndromes de stress post-traumatique, qui nécessairement altèrent la qualité de la narration, la chronologie, la cohérence, ce genre de choses. Il y a des personnes, je me souviens avoir assisté, qui racontaient des fois n'importe quoi. Mais pas n'importe quoi parce qu'ils racontaient des salades, n'importe quoi parce qu'ils étaient tellement frappés par tout ce qu'ils avaient vécu et compagnie, qu'ils étaient plus capables de la moindre cohérence. Ils avaient des troubles psy tellement importants que ça servait à rien de leur d'exiger quoi que ce soit à d'eux. Et pour autant, il fallait quand même les protéger. En tout cas, c'est ce que nous on demandait au juge. C'est des personnes, il faut imaginer qu'ils jouent. Ils jouent leur vie, enfin je sais pas combien de temps ont duré leurs audiences, hein, mais ils jouent leur vie sur une trentaine de minutes de questions-réponses, quoi. Ben moi je sais que dès que je dois parler ou défendre ma situation ou des éléments de je sais pas, je suis nul parce que je suis envahi par le stress, parce que et c'est valable pour plein de personnes en fait.
Ce qui a pu paraître un peu troublant, je trouve, plus habitué des audiences pénales et correctionnelles en particulier, voire de comparution immédiate, c'est l'apparente courtoisie des échanges avec les requérants. Alors, elle est réelle, cette courtoisie, je dis apparente, mais elle dissimule mal, en revanche, cette suspicion dont tu parlais et le fait qu'on essaye véritablement de les coincer, y compris sur des éléments qui peuvent paraître très périphériques de leur discours, ce qui est très déstabilisant. Et on a un requérant répond à, je sais pas, peut-être en tout 30-40 questions en 30-40 minutes, là où en comparution immédiate, finalement, bon, 2-3 questions, on va le rudoyer, c'est une autre forme de brutalité.
Et c'est vrai que ça dure relativement longtemps, mais en fait, plus ça dure, plus c'est des questions déplaisantes, quelque part. Donc, on n'a pas trouvé vraiment que c'était la garantie d'une écoute attentive.
si je peux me permettre, enfin là, il y a une, enfin, j'imagine la courtoisie qui a cours, et c'est tant mieux. J'ai tendance à dire pourvu que ça dure. À la CNDA Montreuil, hein, parce que là vous êtes à Toulouse, on y reviendra. À la CNDA Montreuil, on prépare les gens à ce que ça se passe mal, à ce que ça soit extrêmement dur. Et il y a des fois où on sort d'audience en se disant bon, au moins ils ont pas été désagréables. C'est des choses qui arrivaient vraiment, mais très 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 fréquemment. Pour vous donner des éléments de comparaison, il y a eu pendant 2-3 ans. C'était tellement tendu avec les magistrats qui sont tellement dans une volonté de juger vite, parce que là je sais pas combien il y a de dossiers sur la journée, hein, mais à Montreuil, le but à Montreuil et le but à Toulouse, c'est 13 dossiers à la journée. 13 dossiers à la journée. Donc ça laisse pas un temps normal et serein pour examiner une demande. Donc il y avait tellement d'incidents entre les magistrats et les avocats qu'il y avait tous les jours un membre du Conseil de l'Ordre d'un des barreaux de l'Île-de-France qui faisait une permanence sur place, in situ, pour gérer les incidents d'audience qu'il y avait. Donc, je suis ravi que ça se passe bien pour les requérants, parce que c'est important, voilà, de l'apparence de justice, l'impartialité, ça compte.
Et ils ont eu les meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Eh ben, formidable. On va leur souhaiter un
statut. Heureuse nouvelle année.
C'est un peu déstabilisant.
On va leur souhaiter un statut pour commencer. Et voilà. Donc, en tout cas, la courtoisie, elle est là, et tant mieux. Et voilà, espérons que ça dure. Et moi, je vous invite à revenir tant que vous le voudrez, notamment dans un an.
Comment elle est composée, cette cour? On nous a parlé tout à l'heure du juge rapporteur.
Ouais, alors c'est un fonctionnement qui est assez unique, hein, au niveau européen. Alors la composition de la, parce que là vous étiez en formation collégiale, donc en face de vous au centre vous aviez un magistrat professionnel de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire, de la Cour des comptes, enfin un magistrat. À sa gauche, il y a un assesseur qui est nommé par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et à sa droite, c'est un assesseur qui est nommé par le Conseil d'État. Donc vous avez deux juges assesseurs qui ne sont pas des magistrats professionnels, avec cette petite particularité d'appartenir au Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, ou alors d'être... Vous pouvez avoir des professeurs d'université, vous pouvez avoir des anciens consuls, des universitaires, il y a plein de profils différents pour l'assesseur administration comme pour l'assesseur HCR. Hein, du coup. C'est pas parce que c'est le commissariat aux Nations Unies que c'est forcément le gentil de la bande. Faut le savoir aussi. C'est pas parce que c'est nommé par le Conseil d'État et souvent on dit le juge assesseur administration que c'est le mauvais de la bande, hein. c'est pas forcément le cas. C'est... Et puis en général, c'est pas forcément parce qu'on est super gentil que on est le plus souple dans la décision. Ça, c'est des choses qu'on connaît dans toutes les juridictions. Hein. Les plus gentils en apparence ne sont pas forcément ceux qui rendent les décisions les meilleures pour les requérants.
Et alors la rapporteuse ou le rapporteur?
Le rapporteur dont le travail est de présenter. En fait, l'affaire, de présenter l'affaire au juge, à la formation de jugement, qui est censée avoir lu le rapport en amont. Hein. Les juges sont censés avoir lu et examiné tous les dossiers en amont. Ça se voit assez vite, un juge qui a pas lu le dossier, bon, j'imagine que c'est pas le cas, parce que voilà, il n'y a pas encore beaucoup de dossiers. Mais quand on était à Montreuil, ça arrive assez fréquemment. Hein. Et donc le juge rapporteur... Et là, pour présenter le dossier, le demandeur d'asile, pourquoi il a fait sa demande à l'OFPRA, pourquoi l'OFPRA a rejeté, quels ont été les éléments qu'il a mis en avant dans son recours pour saisir la cour, et à un moment, il part sur l'analyse du dossier qui fera l'objet d'une traduction.
Ça a été le seul morceau effectivement traduit.
Voilà. Bon, ça c'est quand même un truc intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle énormément d'une situation, mais tout ne lui est pas traduit. Uniquement un moment où il va envisager les contradictions ou les questions qui pourraient être posées à l'intéressé. Et en fait, ces questions, c'est celles qui sont de nature à venir éclairer les juges sur la question de la demande de protection et savoir si oui ou non il faut lui accorder une protection. À cette personne. Et au-delà de ça, parce que c'est vraiment extrêmement important, le rapporteur, la rapporteure ont un rôle fondamental. Fondamental. Un rapport qui part dans le mauvais sens, potentiellement, ça détruit un dossier. Il y a des fois où on prend la parole, vous avez dû voir qu'on prend la parole à la fin, on peut demander à prendre la parole en suivant du rapport. C'est des choses qui peuvent se faire, notamment, enfin, c'est des choses qu'on demande, hein, au président qui a la police de l'audience, pour essayer de rattraper les choses, parce que quand on voit que c'est très mal parti au niveau du rapport et qu'il part sur un terrain qui ne va pas du tout, en fait, hein, parce qu'il passe à côté du dossier, parce que ça arrive, en tout cas, à côté du dossier tel que nous on l'a vu et tel qu'on a envisagé avec le client, on peut demander à parler après son rapport. Parce que les juges restent sur ces questions, sur ces interrogations, sur ces contradictions et vont en général partir sur les questions sur ces questions là quoi. Et
est-ce qu'ils sont tenus de reprendre justement?
Non, ils font ce qu'ils veulent.
OK, ils sont pas tenus de
reprendre. Les juges font ce qu'ils veulent. Ouais. Et s'ils ont bossé le dossier et qu'ils ont trouvé un axe différent que celui du rapporteur, ils font ce qu'ils veulent. Ils partent.
Moi, j'ai pensé à tort en écoutant le rapport de la rapporteure qu'elle reprenait une synthèse qui avait été faite par l'OFPRA au moment du refus de l'OFPRA.
Le problème, c'est que souvent, les rapports sont une ressucée de ce que l'OFPRA a dit, en fait.
Du coup, ce qui m'amène à une autre question que je n'avais pas posée tout à l'heure, l'OFPRA, quand il refuse, justifie, motive son refus?
Oui, tout à fait. Il y a un refus qui prend la forme d'une décision motivée, une page, deux pages, trois pages, quatre pages, ça dépend, mais ouais.
D'accord.
Et plus ça va, plus les décisions de l'OFPRA sont motivées. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisque nous, ça nous permet de savoir un petit peu vers quoi on va.
Et à l'audience, l'OFPRA n'est pas là.
Ah oui. Eh oui. Alors c'est la juridiction qui se défend le mieux sans jamais être là. C'est celle qui gagne le plus de dossiers sans être là. C'est quelque chose quand même d'assez surprenant. C'est alors moi, quand j'ai pas été présent sur des dossiers, je n'ai pas gagné autant que mais 3 fois sur 4, l'OFPRA ne va pas être là et va gagner. Le rapporteur, je disais tout à l'heure qu'il a vraiment un rôle très important au stade de l'audience. Il a un rôle très important aussi derrière, parce que c'est lui qui va rédiger la décision.
Oh.
Ouais, c'est le rapporteur qui rédige la décision. Donc, il reste pendant le délibéré. Il n'a pas de voix délibérative, hein, puisque les trois seuls qui jugent, ce sont magistrats professionnels, HCR et assesseur Conseil d'État. Mais il reste là. Et c'est lui qui rédige la décision.
Mais c'est quoi comment on fait pour être rapporteur?
C'est des contrats de droit privé. Ouais, c'est des contrats de droit privé. Bah, vous pouvez candidater, hein. Et c'est beaucoup de travail. Hein. Enfin, pour bien faire son travail, c'est comme partout. Si vous voulez bien faire votre travail, vous allez vraiment être en grande souffrance.
Et sachant, si j'ai bien compris, que c'est la même personne, d'ailleurs, qui décide de qui ou pas aura accès à une audience, que c'est la même personne qui résume le dossier, derrière, c'est elle qui rédige les délibérations.
Oui, oui, c'est tout à la fois le grand absent et l'omniprésent.
Ça me fait penser tout de suite à une question sur les délibérations. Là, ils ont annoncé que les délibérations allaient intervenir dans 3 semaines à peu près, 21 jours. Et est-ce qu'elles sont publiques aussi? Est-ce qu'elles sont motivées? Est-ce qu'elles sont...
Alors, elles ne sont pas publiques en ce sens qu'il n'y a pas les noms qui sont affichés, mais elles font l'objet d'un affichage. L'affichage prenant la forme d'une mise en ligne sur le site de la Cour nationale du droit d'asile. Sur le site de la Cour nationale du droit d'asile, vous avez un onglet « Rôle de lecture ». Et en fonction de votre salle, vous pouvez aller voir, il y a toutes les salles de Montreuil, il y a toutes les salles territoriales, tout ça, vous allez retrouver le numéro de recours, le nom de l'avocat, et à côté marqué statut de réfugié, protection subsidiaire ou rejet. Et ça fait l'objet évidemment d'une décision écrite, qui doit évidemment être motivée, pour expliquer les motifs, puisque derrière, on est susceptible d'aller au Conseil d'État s'il y avait une dénaturation des faits ou s'il y avait des problèmes de procédure.
Bon, on a été à Toulouse aujourd'hui, donc voir deux audiences à la CNDA. Bon, c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible il y a 6 mois, il y a 1 an. Et pourquoi c'est tout nouveau? On nous a annoncé en grande pompe la volonté de rapprocher le justiciable de son juge. Donc une avancée majeure pour les requérants. Je peux pas m'empêcher, c'est parce que je le vois sourire en face de moi. Alors je te soumets cette...
Oui, ça nous a été vendu, oui, beaucoup. Ça nous a été vendu beaucoup comme ça, enfin, parce que quand même, c'est vrai qu'ils ont ils sont tellement attentifs au bien-être des demandeurs d'asile qu'on ne peut que les croire quand ils mettent en avant tout ça. Nous, les avocats, étant des affreux qui n'ont pas à cœur l'intérêt de nos clients, non, la réalité de cette régionalisation, c'est que elle répond avant tout à une logique de la CNDA qui, depuis des années et des années, est une volonté de réduire les délais de jugement. Avant, on pouvait avoir des dossiers qui mettaient 3 ans, 4 ans, 5 ans à avoir une réponse. Moi, quand j'ai commencé, ça arrivait, ce type de délai. Sauf que d'un point de vue politique, c'est intenable pour le ministère de l'Intérieur, puisque pendant 5 ans, on héberge quelqu'un, pendant 5 ans, on lui verse une allocation, pendant 5 ans, la personne peut créer des liens, et du coup, derrière, s'il y a un rejet, peut faire valoir les liens noués sur le territoire français, donc tout ceci est absolument insupportable. Donc du coup, il faut accélérer les procédures. Ce qu'ils vont vous dire, eux, c'est que c'est tout à fait insupportable d'attendre aussi longtemps, d'avoir une réponse et d'être dans l'incertitude, ce qui est juste. Parce que effectivement, rester aussi longtemps, tout à l'heure je vous parlais de procédure l'OFRA qui dure 4 ans, c'est insupportable. Mais entre 4 ans et être convoqué un mois après avoir déposé son recours, je pense qu'il y a un juste milieu qu'on pourrait réussir à trouver et qui serait pas totalement totalement insatisfaisant, puisque là, en ce moment, à la Cour nationale du droit d'asile, à la chambre territoriale, hein, on dépose un recours, on a un avis d'audience un mois plus tard.
Oui, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est des rejets très récents de l'OFRA.
Un mois plus tard, ça n'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Donc après, ça dépend du requérant et de ce qu'il souhaite. Hein. Si le requérant veut y aller pour avoir une réponse rapide parce qu'il a sa femme et ses enfants au pays et qu'il faut pouvoir être fixé assez rapidement, évidemment qu'on y va. Mais si on a des demandeurs qui sont dans l'attente de documents, qui ont envoyé des documents à la traduction et compagnie, ce n'est pas possible de passer un mois. C'est pas... Enfin, même en comparution immédiate. Hein. Enfin, c'est la comparution immédiate de la demande d'asile, c'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Mais le fait est qu'ils vont très très vite, extrêmement vite là, beaucoup trop vite. Enfin, moi je fais des demandes de report sur certains dossiers en ce moment, j'ai son disant droit de la défense en fait. J'ai déposé mon recours il y a un mois, vous êtes censé avoir 5 mois pour juger, on va y aller tranquillement en fait. Et on va prendre le temps. Mais le temps, non, pour la CNDA c'est pas possible, parce qu'eux ils ont le ministère de l'Intérieur au-dessus d'eux qui n'a Dieu que sur les délais de jugement. D'où les rejets par ordonnance, hein, aussi. Hein. Un tiers par ordonnance, ça veut dire quand le dossier, il est rentré, un mois et demi plus tard, 2 mois max, il est sorti. C'est formidable, hein, pour les chiffres, pour les statistiques, c'est absolument formidable. Et donc, dans cette volonté de gagner du temps, une personne qui vient de Toulouse pour aller à Paris, bon, il y a des différents aléas. Le premier étant la question des transports. Et il peut avoir un caténaire qui pète parce qu'il fait froid en ce moment, et pim, report. Ça va nous faire perdre 2 mois. Il y a une grève SNCF, pim, report. Allez, on repère encore du temps. Donc rapprocher le justiciable de sa juridiction, on y croit mollement.
Bah, Julien, merci pour cet entretien.
Avec plaisir.
En espérant qu'il y en aura d'autres.
Et ben oui, mais vraiment, enfin, on invite les personnes à aller voir ces audiences à la CNDA.
Exactement, sont publics, comme on invite souvent les gens à aller à la salle 4 du tribunal de correctionnel. Donc là, c'est à la cour administrative d'appel, ancien rectorat, entre la préfecture et un bâtiment militaire. Donc c'est là qu'ils ont mis ça. La salle est petite, il y a une quinzaine de places, vous pouvez y aller à 10h30 ou 14h, vous serez à peu près sûr.
Et tous les jours, si j'ai bien compris, les 5 jours.
À terme, c'est tous les jours, et tous les jours de 9h, 9h, 10h30, 14h, 15h30.
Avec un objectif, disait Julien, de 13 dossiers par jour. C'est l'objectif pour les comparutions immédiates, 13 prévenus. Voilà. J'espère que les parallèles s'arrêteront là.
Eh ben merci.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Bon, merci à tous les intervenants, Nord, Clément, Marie, Julien, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Tapage sur Canal Sud 92.2.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS à injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat, monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu
fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da.